L'outre-mer est une couleur étrangère rare, plus profonde que le bleu océan ou même que le bleu marine. Lorsque ma mère l'utilisait dans ses tableaux, ce qui n'arrivait pas souvent, elle écrasait de petits morceaux de lapis-lazuli avec son pouce, ajoutait à cette poudre quelques gouttes d'eau ou de salive, puis d'un mouvement ferme et sûr de son couteau à palette, appliquait de petites touches de la puissante teinte dans le paysage marin ou le ciel auquel elle travaillait. Le moindre excès rompt l'équilibre. À la juste quantité, l'outre-mer est la plus belle des couleurs. Les suites de l'hôtel du Mont-Everest possèdent, comme il se doit, plusieurs salons meublés de confortables fauteuils victoriens. Situés dans l'angle du bâtiment, la nôtre a de hautes fenêtres donnant au sud-est sur les maisons de Darjeeling échelonnées à flanc de colline. Au nord et au nord-ouest, entre des nuages mouvants, nous apercevons à la lumière de la lune les hautes montagnes aux cimes enneigées qui se dressent comme des remparts. D'un ton révérencieux, je demande au diacre: lequel est l'Everest? Le petit sommet trapu là-bas au milieu à gauche, celui qu'on a du mal à distinguer. Le Kabrou et le Kanchenjunga, deux autres géants, nous bouchent la vue d'ici. Chacun de nous dispose d'une chambre dans cette vaste suite et, plus merveilleuse encore, de lits en plumes. Jean-Claude et moi ferions volontiers la grasse matinée ce matin-là. Qui sait quand nous aurons à nouveau l'occasion de dormir dans des lits aussi moelleux? Mais le diacre, tout habillé jusqu'aux semelles crantées de ses chaussures d'alpinisme, ne l'entend pas de cette oreille. Il tambourine à nos portes, les ouvre, commence par réveiller JC, puis fait irruption dans ma chambre, tire les rideaux pour laisser entrer la lumière de l'aube et m'oblige à me lever. « Vous vous rendez compte ? » s'exclame-t-il. Encore étourdi, je m'assieds au bord de mon lit merveilleusement chaud et douillet.
« De quoi ?»«
Il a refusé de me laisser entrer. »
« Ah, qui ça ?»
« Et quelle heure est-il ?» Mon ton est grincheux, et pour cause. « Il est presque 7 heures, » répond le diacre, puis il retourne dans la chambre de Jean-Claude pour s'assurer qu'il est bien levé et en train de s'habiller. À son retour, je me suis aspergé le visage et les aisselles d'eau savonneuse, j'ai pris un long bain chaud la veille au soir avant d'aller me coucher, et je me suis même endormi dans la baignoire, puis j'enfile un pantalon et une chemise propre. J'ignore comment il convient de s'habiller dans un hôtel aussi chic que celui-là. Mais le diacre étant en pantalon de sergé, bottes de montagne, chemise blanche et gilet en lin, je devine qu'on n'est pas obligé de se mettre sur son 31 pour le petit déjeuner. Je passe tout de même une veste en tweed et noue une cravate. Si l'hôtel tolère la tenue d'alpinisme du diacre, je doute que Lord Bromley-Montfort en fasse autant.
Qui a refusé de vous laisser entrer?
Je répète ma question au moment où nous nous retrouvons dans le couloir. Lorsque le diacre est vraiment en colère, ses lèvres se réduisent à une ligne fine. Ce matin, elles ont presque disparu.
Lord Bromley-Montfort. Il a fermé toute l'aile opposée et posté ce sirdar passant devant la porte ainsi que deux imposants sherpas qui montent la garde, les bras croisés. Comme s'il y avait un satané harem derrière.
Le diacre secoue la tête, estomaqué. À l'évidence, Lord Bromley-Montfort paraisse dans son lit et ne souhaite pas être dérangé. Pas même par les alpinistes qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour tenter, au péril de leur vie, de retrouver son bien-aimé cousin.
Vous êtes sûr qu'il était si bien aimé que ça?
Demande Jean-Claude en nous emboîtant le pas dans la cage d'escalier étonnamment étroite.
Qui donc?
Demande le diacre d'un ton sec. Il paraît encore tout à son indignation d'avoir été éconduit.
Le jeune Lord Percival, le cousin Percy, le bon à rien de fils de Lady Bromley. Le type dont nous sommes venus chercher le corps congelé. Le jeune Percy était-il si apprécié de Lord Bromley-Montfort de Darjeeling, son cousin Reggie?
Comment voulez-vous que je le sache?
Aboie le diacre. Il nous guide vers la grande salle à manger.
Je suggère que nous prenions tous un bon petit déjeuner.
Dis-je pour couper court aux récriminations du diacre. L'Inde fait manifestement ressortir le côté sombre et impatient du caractère de notre ami, une facette que nous ne lui connaissions pas. Et moi qui croyais qu'il aurait préféré se faire couper la tête plutôt que de s'autoriser à perdre son sang-froid en public. Je vais très bientôt découvrir à quel point je me trompais. Une table a été dressée pour 5 dans la longue salle à manger déserte. Le responsable qui nous a accueillis au milieu de la nuit nous y conduit et y pose 5 menus.
J.C. et moi prenons place d'un côté, et le diacre s'assoit face à nous. Il reste une chaise vide à ma droite, en bout de table, et une à la gauche du diacre. Je m'attendais à un buffet anglais, où l'on se serait servi soi-même, mais ce n'est apparemment pas la façon de faire de l'hôtel du Mont-Everest. Les 5 menus laissent à penser que Lord Bromley-Montfort et une deuxième personne, peut-être Lady Bromley-Montfort, vont se joindre à nous. Une déduction indigne de Sherlock Holmes, mais je n'ai pas encore bu mon café et ne suis pas complètement réveillé. Après les avoir attendus pendant 20 minutes, dans un silence presque seulement rompu par les gargouillis de nos estomacs, nous décidons de passer commande. Jean-Claude choisit seulement des muffins et du café noir, une grande cafetière. Le serveur réceptionniste fait la moue. « Pas de thé, monsieur ?»«
Pas de thé, » grommelle J.C. « Café, café, café !»
Le serveur réceptionniste hoche la tête, l'air déçu, puis s'approche et baisse les yeux sur moi, le stylo en l'air. « Monsieur Perry ?» Je devrais m'étonner qu'il se rappelle mon nom, mais il est vrai qu'à part Lord et Lady Bromley et leur suite, nous semblons être les 3 seuls clients de l'hôtel. J'hésite parce que jusqu'ici, j'ai eu du mal à trouver des petits déjeuners anglais à mon goût. Or, ce menu ne propose que cela. Le diacre se penche vers moi.
Essayez le full monty, Jake.
Je ne le vois pas sur la carte.
Le full monty? Qu'est-ce que c'est?
Le diacre sourit.
Faites-moi confiance.
Je commande donc le full monty avec du café. Le diacre prend la même chose avec du thé. Et Jean-Claude marmonne une fois encore « café ». Puis nous sommes de nouveau seuls dans la grande salle.
« Les affaires ne marchent pas fort à l'hôtel du Mont-Everest, » dis-je.
« Ne soyez pas naïf, Jake, » rétorque le diacre. « Il est évident que Lord Bromley-Montfort a loué l'hôtel entier afin que notre rencontre demeure confidentielle. »«
Oh, » dis-je, me sentant stupide.
Mais pas assez pour m'empêcher de demander.
« Pourquoi donc ?»
Le diacre soupire et secoue la tête.
Ça doit être sa façon de faire profil bas et de passer inaperçu à Darjeeling.
Bon, mais si Lord Bromley-Montfort a vidé cet endroit pour pouvoir nous rencontrer ce matin, où est-il? Pourquoi nous fait-il attendre?
Le diacre hausse les épaules.
Apparemment, les lords anglais en Inde préfèrent dormir tard, dit Jean-Claude.
Nos petits déjeuners arrivent. Le café a un goût d'eau de vaisselle à peine réchauffée. Mon assiette est chargée d'une montagne d'aliments frits qui dégringolent comme s'ils voulaient s'enfuir. Une dizaine de tranches de bacon calciné, au moins 5 œufs sur le plat, 2 énormes tartines de pain grillées dégoulinantes de beurre, une espèce de boudin noir, des tomates frites avachies à côté de tomates grillées, une rangée de saucisses débordant de leur peau, des oignons frits balancés ça et là, et un tas de légumes et pommes de terre mélangées, sans doute les restes du dîner de la veille passé vite fait à la poêle. J'ai déjà mangé des petits déjeuners copieux, mais ce full monty est grotesque. Je m'apprête à faire une remarque sarcastique, mais reste sans voix, bouche ouverte, quand la plus belle femme que j'ai jamais vue et que je verrai jamais entre dans la salle. Je suis incapable de la décrire correctement. Je m'en suis rendu compte il y a des dizaines d'années, la première fois où j'ai commencé à rédiger ces mémoires sans le couperet du cancer au-dessus de moi. J'ai dû renoncer quand il m'a fallu tenter de parler d'elle. Peut-être puis-je vous en dire un peu sur elle en décrivant ce qu'elle n'était pas. Nous sommes en 1925. Les femmes élégantes ont une allure particulière. Pour être élégante, en 1925, une femme se doit d'avoir la poitrine aussi plate qu'un garçon. J'ai entendu dire qu'on vendait des bandelettes et d'autres sous-vêtements visant à produire cet effet. Mais la femme qui entre dans la pièce, escortée par Passang, a une poitrine généreuse. Pour autant, elle ne l'exhibe pas. Sa chemise, quoiqu'en lin délicat, ressemble moins à un corsage de dame qu'aux vêtements des ouvriers travaillant dans les champs. Une femme à la mode, en 1925, porte les cheveux courts et parfois crantés,
Les femmes de petite vertu de Boston, New York ou Londres apprécient particulièrement les accroche-cœurs, tandis que les élégantes privilégient le carré court. Cette femme a les cheveux longs qui cascadent en boucles naturelles sur ses épaules. La couleur de cheveux en vogue en 1925 est le blond tirant vers le platine. Cette femme a les cheveux si noirs que la lumière crée des reflets bleus sur ses boucles d'ébène. Les femmes du monde que j'ai rencontrées lorsque j'étais à Harvard et les prostituées croisées dans les bars clandestins de Boston avaient pour la plupart les sourcils complètement épilés et remplacés par le mince trait de crayon en arc de cercle que Jean Harlow avait bientôt popularisé dans le monde entier. Cette femme, qui s'avance vers notre table, a des sourcils noirs fournis qui, bien qu'à peine arqués, semblent infiniment expressifs. Et ses yeux. Lorsqu'elle arrive au pied de l'escalier à 8 mètres de distance, je crois qu'elle a les yeux bleus. À 6 mètres, je m'aperçois que je me suis trompé. Elle a les yeux outre-mer. L'outre-mer est une couleur étrangère rare, plus profonde que le bleu océan ou même que le bleu marine. Lorsque ma mère l'utilisait dans ses tableaux, ce qui n'arrivait pas souvent, elle écrasait de petits morceaux de lapis-lazuli avec son pouce, ajoutait à cette poudre quelques gouttes d'eau ou de salive, puis d'un mouvement ferme et sûr de son couteau à palette, appliquait de petites touches de la puissante teinte dans le paysage marin ou le ciel auquel elle travaillait. Le moindre excès rompt l'équilibre. À la juste quantité, l'outre-mer est la plus belle des couleurs. Les yeux de cette femme possède l'exacte nuance d'outre-mer qu'il faut pour compléter et parfaire sa beauté. Ses yeux sont parfaits. Elle est parfaite. Elle traverse la salle à grande foulée, passant à son côté et un demi-pas derrière, et s'arrête devant la chaise vide au bout de la table, le diacre à sa droite, J.C. et moi, bouche bée, à sa gauche. Nous nous levons tous les trois pour la saluer. En ce qui me concerne, j'ai plutôt bondi comme un ressort. Jean-Claude sourit. Pas le diacre. Passang tient une pile de livres et ce qui ressemble à des rouleaux de cartes, quoique mes yeux n'aient pas le temps de s'apesantir sur lui ou sur mes amis. Avec sa chemise en lin, la femme porte une large ceinture et une jupe d'équitation, une jupe culotte en réalité, dans un din qui me paraît le plus doux et le plus luxueux du monde. Le soleil de Darjeeling lui a donné une subtile patine. On dirait presque qu'elle a revêtu sa tenue de travail à la plantation, si des vêtements de travail pouvaient être aussi bien coupés. Ses bottes d'équitation évoquent des chevauchées dans les hautes herbes ou sur une terre infestée de serpents, et leur cuir est si souple qu'il ne peut provenir que de la peau d'un veau nouveau-né. Tandis qu'elle se tient debout devant la table, Passang nous salue tour à tour d'un hochement de tête.
« Monsieur Deacon, Monsieur Clairoux, Monsieur Perry, permettez-moi de vous présenter Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort. »
Lady Bromley-Montfort hoche la tête également, mais ne nous tend pas la main. Elle porte de fins gants de cuir assortis à ses bottes.
« Monsieur Perry, Monsieur Clairoux, c'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, »
dit-elle, puis se tournant vers le diacre.
« Quant à vous, Monsieur Deacon, mes cousins Charlie et Percy me parlaient toujours de vous dans leurs lettres lorsque nous étions jeunes. Vous étiez vraiment une forte tête. »
« Nous nous attendions à rencontrer Lord Bromley-Montfort, » déclare le diacre d'un ton froid. « Est-il dans le coin ? Nous devons discuter de l'expédition. »
Lord Montfort se trouve sur notre plantation à 30 minutes de trajet dans les collines,
répond Lady Bromley-Montfort.
Mais je crains que vous ne puissiez pas le voir.
Et pourquoi donc ? Demande le diacre.
Parce qu'il repose dans une crypte,
dit la femme, ses extraordinaires yeux toujours fixés sur le visage du diacre. Elle paraît presque amusée.
« Lord Montfort et moi, nous sommes mariés à Londres en 1919, avant de revenir en Inde, dans la plantation où j'ai grandi et que je dirigeais. Je suis devenue Lady Bromley-Montfort, et 8 mois plus tard, Lord Montfort a été emporté par la dengue. Le climat indien ne lui a jamais convenu.
Mais j'ai envoyé des courriers à Lord Bromley Montfort, bafouille le diacre.
Il sort sa pipe de la poche de sa veste et la serre entre ses dents, mais ne semble pas vouloir la remplir ni l'allumer.
Lady Bromley nous a parlé d'un cousin Reggie. J'en ai donc naturellement déduit.
Elle sourit et je sens mes jambes faiblir.
Catherine Christina Regina Bromley Montfort, dit-elle d'un ton doux. Reggie pour mes amis. Monsieur Clairoux, Monsieur Perry, j'espère sincèrement que vous m'appellerez Reggie.
Et vous, Jean-Claude,
dit mon ami français en s'inclinant devant elle. Il lui prend la main et la baise malgré le gant. Je réussis à dire
« Jake ».
Reggie prend place à table, tandis que la haute et digne silhouette de passant se tient debout derrière elle en sentinelle. Il lui tend une carte qu'elle déroule, repoussant sans cérémonie les assiettes et les tasses sales. Jean-Claude et moi échangeons un regard avant de nous rasseoir. Le diacre mord si fort la tige de sa pipe qu'il émet un claquement audible, mais finit par s'asseoir lui aussi. Reggie a déjà commencé à parler.
Vous proposez un itinéraire classique qui me convient pour l'essentiel. Après-demain, nous prendrons des camions de la plantation pour aller à Six Milestone, où nous finirons de charger les bêtes de somme. Puis nous partirons à pied avec les Sherpas. Nous passerons par le mont Tista, puis nous poursuivrons jusqu'à Kampong, où d'autres Sherpas nous attendront avec davantage de mulets.
« Nous ?» a dit le diacre.
« Comment ça, nous ?»
Elle lève les yeux vers lui avec un sourire.
« Bien sûr, Dicky. Depuis que ma tante a accepté de financer votre expédition pour rechercher le corps de Percy, il a toujours été entendu que je vous accompagnerai. C'est la condition sine qua non. »
Le diacre doit se rendre compte qu'il risque de briser la tige de sa pipe préférée s'il continue à la serrer entre ses dents, car il l'ôte de sa bouche d'un mouvement si brusque qu'il manque frapper Reggie à la tête. Au lieu de lui présenter des excuses, il s'exclame
« Fou, dans l'expédition !» Une femme sur l'Everest, c'est absurde, ridicule. Même pas au camp de base, même pas au Tibet, c'est hors de question.
C'était pourtant la condition du financement de mon expédition pour retrouver la dépouille de mon cousin Percival, rappelle-t-elle, souriant toujours.
Nous continuerons sans vous, dit le diacre. Il a le visage tout rouge.
Et donc sans un shilling supplémentaire des Bromley, dit Reggie.
Nous nous débrouillerons avec les fonds dont nous disposons.
Quels fonds? Même les billets de Liverpool à Calcutta ont été payés par Lady Bromley, avec de l'argent manifestement gagné grâce à la plantation de thé de Reggie.
Je vous donnerai deux raisons justifiant ma participation à cette expédition, en plus de l'absolue nécessité financière,
dit Reggie d'un ton calme.
Serez-vous assez aimable pour m'écouter ou allez-vous continuer à m'interrompre avec ces bruits de basse-cour?
Le diacre croise les bras en silence. À en juger par sa posture et son expression, rien ne le fera fléchir.
La première, ou plutôt la deuxième après la question budgétaire, c'est que vous n'avez pas prévu de médecin. C'est ahurissant. Les trois précédentes expéditions britanniques en comptaient au moins deux, dont un chirurgien.
J'ai appris les techniques de premier secours durant la guerre,
dit le diacre à travers ses dents serrées.
« J'en suis sûr, » répond Reggie avec un sourire. « Et si l'un d'entre nous devait être blessé par un éclat d'obus ou un tir de mitrailleuse, je ne doute pas que vous réussissiez à prolonger sa vie de plusieurs longues minutes. Mais il n'y a pas de poste de secours derrière les lignes de front au Tibet, Monsieur Deacon. »«
Vous allez nous expliquer que vous êtes une infirmière compétente ?»«
Je le pourrais. Avec plus de 13 000 personnes travaillant sur nos deux plantations, » j'ai dû acquérir quelques compétences dans ce domaine. Mais ce n'était pas là mon propos. J'ai l'intention d'avoir un excellent médecin et chirurgien dans l'équipe.
Nous n'avons pas les moyens d'ajouter, commence le diacre.
Reggie l'interrompt en levant la paume d'un mouvement gracieux.
Docteur Passang, dit-elle à son sire d'art, vous voulez bien donner vos références à ces messieurs?
Docteur Passang? J'avoue, non sans honte, que de vagues images de fakirs et d'ascètes indiens, sans parler de sorciers vaudous haïtiens, me traversent l'esprit juste avant que Passang ne prenne la parole avec son accent anglais cultivé.
« J'ai passé un an à Oxford et un autre à Cambridge, » commence-t-il. « Puis j'ai étudié un an à l'école de médecine de l'Université d'Édimbourg et 3 ans à la faculté du Middlesex Hospital à Londres. Je me suis spécialisé en chirurgie auprès du célèbre chirurgien thoracique Klaus Wolheim à Heidelberg, Heidelberg en Allemagne, messieurs. Puis après mon retour en Inde, j'ai encore fait un an de clinica à l'hôpital Caras Convent de Lahore.
Cambridge et Oxford n'auraient jamais accepté,
commence le diacre avant de se mordre la langue.
Un était en leur sein,
termine le docteur Passang à sa place, sans rancœur apparente. Il nous adresse son premier vrai sourire depuis que nous avons fait sa connaissance.
Pour je ne sais quelle étrange raison, ces deux vénérables institutions se sont imaginées que j'étais le fils aîné du Maharaja d'Aïdapour. Une illusion partagée par les directeurs des facultés de médecine que je viens de mentionner. C'était quelques années avant votre passage à Cambridge, monsieur Deacon, à une époque où l'Angleterre tenait beaucoup à préserver des relations cordiales avec les familles royales indiennes.
Nous restons silencieux pendant un moment, jusqu'à ce que Jean-Claude demande d'une petite voix.
Si vous me permettez de poser une question, docteur Passang, pourquoi, après avoir suivi cette excellente formation et obtenu vos diplômes de médecin, êtes-vous retourné travailler comme sirdar, ici à la plantation de Lady Bromley-Montfort?
Passang nous sourit une fois encore.
Je ne prendrai le titre de sirdar que pour cette expédition sur la montagne tibétaine sacrée qu'est le Chomolungma. Comme l'a expliqué Lady Bromley-Montfort, plus de 13 000 hommes et femmes travaillent pour elle. Ses employés ont des familles élargies. Mes compétences de médecin ont largement de quoi s'employer ici, entre Darjeeling et l'Himalaya du Sud. Nous avons 2 infirmeries, une dans chaque grande plantation, qui sont, si vous me permettez cette audace, supérieures en termes d'équipement et de médecine au petit hôpital britannique de Darjeeling.
Je m'entends demander... Comment feront ces gens quand vous serez parti en expédition, docteur Passang?
Lady Bromley-Montfort a eu la générosité d'envoyer d'autres jeunes gens étudier la médecine en Angleterre et à New Delhi. Et plusieurs femmes Sherpa ont suivi une formation complète d'infirmières à Calcutta et Bombay, avant de revenir offrir leur service à la plantation, comme je l'ai fait, par reconnaissance envers leur bienfaitrice.
Vous êtes vraiment chirurgien? Lui demande le diacre.
Le sourire de Passang se fait légèrement sardonique.
Laissez-moi aller chercher un scalpel et un bistouri dans ma mallette et je vous montrerai, monsieur Deacon.
Le diacre se tourne vers Reggie.
Vous parliez de 3 raisons pour lesquelles nous devrions accepter votre compagnie. Nous pourrions emmener le docteur Passang avec notre gratitude. Mais une femme dans une expédition à l'Everest...
J'imagine qu'il vous sera très difficile de traverser le Tibet sans autorisation officielle, dit Reggie.
Bredouille le diacre. Il abat son poing sur la table. Vous nous avez promis de nous obtenir cette autorisation. Les documents devaient nous être remis ici, à Darjeeling.
Ils le seront, dit Reggie.
Elle lève la main par-dessus son épaule droite et Passang y pose un autre rouleau de papier. Elle le déroule sur la carte montrant l'itinéraire que nous suivrons pendant environ 5 semaines pour aller de Darjeeling à Rongbuk, puis jusqu'à l'Everest.
« Si vous voulez le lire, tous les 3 ?»
dit-elle en le tournant vers nous. Nous nous levons à moitié pour nous pencher sur l'épais parchemin. Il s'agit d'un document manuscrit, rédigé d'une main élégante, et sur lequel sont apposés 12 de tampons et de cachets de cire. Aux Dzongpons et aux chefs de Faridzong, Tinkidzong, Kambadzong et Karta. Soyez informés qu'un groupe de Sahibs est en route pour le Chomolungma, malgré l'interdiction temporaire imposée par le Dalai Lama aux étrangers en raison de comportements répréhensibles après l'expédition britannique à l'Everest de 1924. Le saint Dalai Lama ne fait cette exception que parce que Lady Bromley-Montfort, qui conduit cette équipe, est depuis longtemps une grande amie du peuple tibétain et de nombreux Dzongpons. Nous souhaitons qu'elle puisse se rendre avec son groupe jusqu'au Chomolungma afin de tenter de retrouver le corps de feu son cousin, le lord britannique Percival Bromley, que nombre d'entre vous ont rencontré. Il est mort sur la montagne sacrée en 1924 et nos amis les Bromley voudraient lui offrir une sépulture décente. Nous ne doutons pas que le groupe de Lady Bromley Montfort, fidèle à la tradition qu'elle a depuis longtemps établie sur sa plantation de Darjeeling, continuera de manifester son amitié et sa générosité à l'égard des Tibétains. C'est pourquoi, à la demande du grand ministre Bell et selon le souhait exprimé par sa sainteté le 13e Dalai Lama, un sauf-conduit lui a été délivré. Il vous est en outre demandé, ainsi qu'à tous les représentants et sujets du gouvernement tibétain, de fournir à Lady Bromley Montfort et son groupe tous les moyens de transport nécessaires. Le prix des poneys, des animaux de charge et des coulis sera défini à la satisfaction mutuelle. Toute autre assistance dont Lady Bromley Montfort pourrait avoir besoin, de jour comme de nuit, durant le trajet ou lors de ses haltes, dans ou autour de ses campements ou dans nos villages, devra lui être fourni et tout autre de ses besoins promptement satisfait. Tous les habitants de ce pays, où que soit Lady Bromley Montfort et son groupe de Sahib, devront les aider dans la mesure de leurs possibilités, non seulement dans le but de rétablir des relations cordiales entre les gouvernements britanniques et tibétains, mais aussi pour que se poursuive la longue amitié entre la plantation de thé de Lady Bromley Montfort, connue de longue date pour son hospitalité à l'égard de nos voyageurs, et tout le peuple tibétain. Envoyé pendant l'année du chien d'eau. Sceau du Premier ministre. Le diacre ne dit rien. Son visage est parfaitement inexpressif, plus encore qu'il y a 9 mois au sommet du Cervin, lorsque nous avons appris la mort de Mallory et d'Ervin. Reggie, j'ai adopté son surnom presque immédiatement, du moins dans ma tête, enroule le document du Premier ministre et la carte, les rend à Pasang et dit
« J'ai demandé au valet de chambre de ranger vos vêtements pour que nous puissions repartir sans délai à la plantation. Ainsi, nous disposerons du reste de la journée pour parler de l'itinéraire, des détails de l'ascension, des vivres pour le voyage, de nos relations avec les Zonpons et de tout ce qu'il nous faudra régler. Demain matin, vous choisirez les Sherpas qui vous seconderont et vos poneys. J'ai assez d'hommes compétents à disposition pour que nous puissions sélectionner la 60aine de porteurs dont nous avons besoin. Et ils auront chargé le matériel sur les bêtes de somme avant la nuit tombée. »
Elle se lève et quitte la pièce d'une démarche rapide. Pasang, le docteur Pasang, la suit en demeurant un pas derrière et seules ses larges foulées l'empêchent de se faire distancer. Au bout d'un moment, JC et moi nous levons, nous regardons et, tentant de ne pas sourire ouvertement devant le diacre silencieux, montons voir où en sont nos bagages. Enfin, le diacre nous suit dans l'escalier.